Brestois, Brestoises, j'espère que vous avez commencé à libérer vos mardis et mercredis de la saison prochaine parce que vous allez en avoir besoin. Bienvenue pour ce 13e épisode de Brest en Air, déjà le 13e. Je suis rejoint comme d'habitude et cette fois on est tous ensemble au même endroit et ça va s'entendre normalement aussi. De Fanche, bah, comment ça va Fanche?
Ça va très bien.
Et Yann qui est en vacances, donc qui est à Brest. Comment ça va Yann?
Et donc forcément très bien.
Ah oui.
Vacances, 5e, très bien.
C'est ça, on continue de gagner, on ne s'arrête plus de gagner. Est-ce que ça va s'arrêter à Amiens? On le découvrira dès ce week-end. Mais en tout cas, nous, on va continuer d'analyser les victoires. C'est toujours mieux d'analyser des victoires que des défaites. Et on commencera par donc le retour sur Brest-Dijon, avec quelques déclarations de supporters que nous avons interrogés aux abords du stade.
Pendant le match, après le match, enfin, un petit peu de tout.
Voilà, donc il y aura un peu de ça. On continuera par les news avec évidemment les résultats des équipes de jeunes et des féminines, les anciens Brestois qui ont brillé par centaines de milliers, aussi une petite analyse rapide de ce qu'on attend du match de demain pour nous et hier pour vous face à Metz en Coupe de la Ligue, et on terminera par Amiens-Brest. On commence directement par Brest-Dijon, et avant de commencer par l'analyse du match en lui-même, on va revenir un peu à l'avant-match et ce que vous avez pensé de la composition. Parce qu'évidemment, il y avait quelques débats après la belle performance à Angers la semaine précédente. Du coup, on se demandait qu'est-ce qu'il allait pouvoir faire. Est-ce qu'il allait laisser, on en avait discuté d'ailleurs dans le podcast précédent, le 4-3-3 qui avait bien marché en deuxième période à Angers, ou bien repartir sur le 4-2-3-1. Et il a donc laissé le 4-3-3 et en laissant exactement les mêmes joueurs.
Non, parce qu'il a retiré Autrette.
C'est vrai.
Donc ça, c'était très important et c'était la meilleure chose, je pense, quand j'ai vu la composition d'équipe. C'est qu'Autrette ne jouait pas et bon, bah, ça s'est vu. Je trouve qu'on a été bien meilleurs dans la tenue du ballon et tous les joueurs ont fait les efforts. Et ça change de jouer à 11 et pas à 10, selon moi.
Bah, très bien. Moi, j'étais très content. J'étais un peu déçu pour Cardona, mais sinon très content de revoir des joueurs qui avaient été plutôt bons à Angers.
Très concernés, en tout cas.
Voilà, qui dans l'esprit étaient totalement là.
Ouais, donc tout le monde est d'accord avec Olivier Dalloglio qui montre peut-être un peu plus que son prédécesseur qu'il est enclin à faire des changements et à donner la chance à chacun. Et si un joueur performe bien la semaine précédente, bah, il est récompensé la semaine suivante. Et ça, je pense que pour un groupe, c'est agréable de savoir que rien n'est jamais perdu et que hop, si tu as une chance une semaine et que tu performes, tu peux continuer dans l'équipe titulaire la semaine prochaine.
C'est bien aussi de voir des recrues qui s'imposent, parce que ce n'était pas vraiment le cas de Romain Perrault, qui est un peu en difficulté sur le début de saison. De voir que Ludovic Bell, lui, également une recrue, hein, est plutôt bon depuis, ça fait maintenant deux matchs qu'il joue, puisqu'il a joué à Angers et il a joué contre Dijon, deux bons matchs. Et Paul Lannes, qui trouve un petit peu enfin sa place également dans cet effectif, et qui pour moi ne devrait plus quitter l'équipe.
Ah, ça c'est un débat qu'on aura peut-être sur le prochain match.
Oui.
Yann, tu avais peut-être quelque chose à rajouter?
Bah, juste un peu, pas vraiment surpris, mais il y avait la question de Diallo. Bon, il n'a pas démarré. Sur son entrée, je l'ai trouvé très bon. Donc, on va voir comment on va gérer le cas de Diallo sur les semaines à venir.
Ah, donc, vous avez déjà commencé à rentrer dans le vif du sujet avec l'analyse du match. Et justement, on voit qu'on a vraiment un groupe de 15-16 joueurs qui peuvent prétendre à être titulaires là maintenant.
Et au-delà de la victoire, je trouve que c'est la série qui est intéressante parce qu'on avait fait donc le podcast numéro 10, c'était il y a 3 semaines, on disait, voilà, on arrive dans des matchs qui sont face à des équipes de notre championnat, donc il faudra évidemment essayer de ne pas perdre et gagner. On s'était dit, je ne sais pas, au moins 6-7 points sur Angers, Dijon, Metz et Amiens. Bon, avant de jouer Amiens, on en est déjà 9, donc je pense que quoi qu'il arrive à Amiens, cette série sera réussie et sera très importante pour le bilan final de la saison. Et en ce qui concerne donc Brest-Dijon, pour moi, je trouve que c'était, bon, sans oublier la faiblesse hein, de l'adversaire, parce que c'était vraiment pas bon en face, je trouvais.
Et par contre, leur entraîneur a bien certifié que c'était vraiment un match qui n'était pas dans les clous de ce qu'il faisait les semaines précédentes. Donc, est-ce que c'est la faute ou grâce au Stade Brestois, peut-être?
Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est meilleur match.
C'est pas le vrai Dijon entre guillemets qu'on a vu.
Notre meilleur match dans la tenue du ballon, dans les actions, dans la volonté. On n'a pas craqué. Même quand on était réduit à 10, on n'a pas souffert. Je trouve, on n'a pas subi énormément d'occasions. On a fait preuve de beaucoup de cohésion. Et je trouve que, bah, comme Olivier Dalloglio le répétait en conférence de presse, on note vraiment des progrès semaine après semaine, et après chaque match, on peut trouver quelque chose de meilleur que le match précédent, en fait. Donc ça, c'est intéressant, selon moi.
Et puis autre chose qui est très intéressante, c'est sur ce match contre Dijon, c'est peut-être le premier match où on a été bon un peu partout, dans tout type d'action. C'est-à-dire on a été très bon dans des contres. Le but de l'âne à la base, c'est une récupération haute, ça va vite. On a été très bon sur des actions construites, on a été très bon sur
plus de variété, oui, c'est vrai.
Voilà, c'est le mot. C'est, vraiment, on a été bon sur toutes nos marques.
Parce qu'au début de saison, on disait qu'on marquait quasiment tout le temps sur des actions rapides, des centres, et qu'on contrait plutôt. Et les buts sur les actions construites sont assez rares. Et finalement, bon, là, le but de l'âne, c'est une action assez rapide, mais quand même des beaux déplacements. Et on aurait pu marquer sur des actions construites aussi.
Oui, je pense à la très belle passe de l'âne pour Charbonnier. C'est une longue séquence de possession qui finit sur le côté. Enfin, c'est...
D'ailleurs, les statistiques avancées ne mentent pas. Au niveau des, on en parlait la semaine dernière, des expected goals. Là-dessus, on était largement meilleur que Dijon. Et toutes les statistiques, qu'elles soient avancées ou pas d'ailleurs, confirment notre sentiment que la victoire était maîtrisée et méritée.
Et aussi, ça montre, je suis désolé de devancer Yann, mais je trouve que ça montre cette composition d'équipe, ce 11-là, ça montre finalement que notre banc est plutôt correct. On avait des doutes un peu sur la profondeur du banc.
Et bah, là, après Nîmes, on avait peut-être des raisons d'avoir des doutes.
Après, je pense que le match de Nîmes, il sera peut-être salvateur. Finalement, on aura tiré les enseignements de ce qui n'a pas du tout été. On avait vu un LAN qui était vraiment pas bon, Jardonnet derrière, c'était compliqué.
Tokyo,
très compliqué. Et là, finalement, les joueurs ont le droit de progresser aussi, hein, et l'effectif a le droit d'apprendre à se connaître. Et on arrive à quelque chose de très intéressant et qui peut nous permettre d'être optimiste aussi avant le match d'Amiens.
On a pointé du doigt la faiblesse de Dijon, mais pour moi, ce n'est pas la pire équipe qu'on ait vue à Le Blé cette année. Enfin, quand je compare à Toulouse, il n'y avait vraiment rien. Là, Dijon, je trouvais qu'il y avait une envie d'essayer de faire quelque chose, mais voilà, plombé par des grosses erreurs individuelles, mais collectivement, pour moi, c'était bien meilleur que Toulouse.
Même que Lyon, limite, parce que Lyon n'avait pas fait grand-chose face à nous. Bon, après, c'était au fond du trou aussi. Bah, dans le camp adverse, on a fait des récupérations beaucoup plus hautes que d'habitude. Souvent, par exemple, on était à Angers, on s'est bien rendu compte, bon, c'était un contexte différent à l'extérieur et tout. Mais contre Metz, on récupérait le ballon très bas, on était dans nos 30-35 mètres, et puis après, bon, on était quand même assez hermétique. Mais du coup, quand tu récupères le ballon super bas, c'est compliqué de relancer et puis de
bah, procurer c'est simple hein, comme théorème. C'est-à-dire que plus tu récupères le ballon bas, plus il y a de chemin à faire par rapport au but.
Et là, en première mi-temps, j'ai pas compté le nombre de récupérations hautes qui ont été réalisées. Pourtant, on n'a pas marqué derrière. Donc, il y a encore du progrès à faire, hein, des axes de progression. Mais on récupérait le ballon beaucoup plus haut. On a profité aussi quelque part de la maladresse technique dans les transmissions dijonnaises. Et tout ça sans Diallo, qui est pourtant celui qui récupère peut-être le plus de ballons. Donc c'est bien.
Et pour illustrer tout ça, en fait, je pense qu'il suffit de regarder la carte du placement de Haris Belkebla.
Ouais, beaucoup plus offensif.
Beaucoup plus offensif, beaucoup plus haut, qui a même failli marquer.
Ouais. D'ailleurs, dommage, ça aurait été vachement bien qu'il marque. Ça aurait un peu concrétisé aussi son bon début d'année. Et oui, donc, tu voulais dire.
Voilà, ça illustre tout parfaitement qu'on a joué beaucoup plus haut, on a été chercher les ballons beaucoup plus haut, puisque Belkebla, on sait, hein, c'est sa qualité numéro 1, écarter les ballons.
Il y a aussi un autre truc, je trouve, qui est à la fois pénalisant, mais qui a mis en avant le très bon état d'esprit, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, c'est le carton rouge, parce qu'il nous pénalise dans le sens où ça peut offrir un pénalty, finalement non, après quand même 7 minutes de vidéo, ça peut relancer l'équipe de Dijon, finalement, coup de chance, il n'y a pas péno, vive la VAR, finalement, on a critiqué beaucoup, et ça nous sauve deux fois cette année, je vois que Quentin n'est pas d'accord. Mais
en fait, je ne sais pas si met coup franc à la base, il peut regarder.
Non, parce que c'est la VAR, s'il met coup franc à la base, il ne peut pas regarder.
Voilà, parce que c'est que je pense que c'est pour ça qu'il met pénalty avant.
Pour regarder. Et donc, ça nous pénalise dans le sens où on se tire une balle dans le pied parce qu'on peut encaisser rapidement, mais finalement, ça montre aussi un très bon état d'esprit. Et à 10, l'équipe n'a pas souffert vraiment la comparaison. On n'avait pas l'impression d'être en infériorité parce qu'on a des occasions, même avec Mendy un petit peu en contre sur la fin de match. Donc, vraiment, globalement, c'est très positif, très encourageant, je trouve, ce qui s'est fait. On est vraiment sur une dynamique de la montée encore de l'année dernière. Avec des joueurs différents, un coach différent, c'était une mayonnaise pas facile à faire prendre, je pense. Et pour l'instant, c'est bien.
Puis bah même, j'irais même plus loin, je trouve qu'on a été moins en danger à 10 que par certains moments à 11.
Ouais, peut-être sans coup, on a défendu.
Ouais, voilà. Parce que c'est peut-être les seules actions du Genève, c'était sur des contres. C'est important pour le match à venir, on le verra tout à l'heure, mais voilà, à 10, on nous sommes très très solides.
Globalement, quand on voit une équipe comme Dijon, je pense aussi, même tu disais, Quentin, c'est pas les canons habituels de leur performance, d'après leur entraîneur. Mais c'est quand même plutôt rassurant de voir que bah, je sais pas, c'est pas une équipe. Enfin, on n'a absolument rien du tout à en envier une équipe comme ça qui est en Ligue 1 depuis plusieurs années.
Bah, surtout, moi, ce que je trouve très positif comparé à eux, c'est la mentalité. Eux, ils ont pris le premier but et ça y est, c'était la tête au fond du trou, on les a plus vus. Quand tu sais qu'ils vont jouer Paris, Bordeaux, Monaco, Lille et Rennes dans les semaines à venir.
Ouais. Enfin, c'est un pari dès vendredi. Là,
ils sont pas encore enterrés, mais c'est pas loin, quoi.
Et d'un point de vue comptable, on prend beaucoup de points d'avance sur eux, donc c'est également très intéressant.
Bah, tu parlais du dynamisme de la montée. Moi, je trouve finalement qu'on est vraiment une vraie équipe de Ligue 1. C'est-à-dire que quand on est monté en 2010, je trouvais que là, pour le coup, il y avait une vraie dynamique de la montée. On était un peu fou. Et là, je trouve qu'on est en maîtrise. C'est-à-dire que on a vraiment progressé. Tu parlais il y a quelques semaines des bienfaits peut-être d'avoir affronté des grosses équipes en premier en Ligue 1 pour pouvoir prendre le pouls vraiment du championnat. Et là, vraiment, je pense qu'on récolte ce que l'on a semé les premières semaines. On est beaucoup plus en maîtrise. On bat les équipes qu'on doit battre. Et ça, c'est vraiment très intéressant dans l'optique du maintien. Je pense qu'on est meilleur aussi que les équipes que l'on bat actuellement. Les Metz, bon, peut-être pas
Peut-être pas
Angers,
Angers, ouais.
mais les Dijon et Angers, je ne les mets pas vraiment dans le même championnat que nous. Et ça, c'est vraiment très très positif. On voit vraiment une progression, comme le dit Olivier Dalloglio, au fil des matchs, et une progression des joueurs aussi,
D'ailleurs,
qu'elles soient
je vous
collectives
ai
ou
posé la
individuelles.
question sur notre groupe Messenger l'autre jour. Je ne sais pas si j'avais quelqu'un qui m'a répondu ou pas. Mais on parlait des recrues et tout. Et je demandais finalement, est-ce que la meilleure recrue, c'est pas le coach? Parce que, voilà. On était dès le premier podcast, hein, on n'était pas déçu du départ de Furlan, donc on ne peut pas nous traiter d'opportunistes et de changer notre fusil d'épaule. On était plutôt optimiste mais bienveillant envers Olivier Dalloglio. Et là, force est de constater que après 12 matchs, 11 matchs,
11
11
matchs.
matchs, il s'est bien adapté à Brest et son discours semble bien passer en tout cas.
Bah, il me semble qu'il a été élu entraîneur de semaine par l'équipe cette semaine
Ouais.
et que la semaine dernière, il avait la même note que Tourelle qui était entraîneur de l'équipe de la semaine. Donc on peut considérer que ça fait deux nominations consécutives, c'est pas anodin.
C'est vraiment tout ce qui ressort du bonhomme et de l'entraîneur. Enfin, je pense qu'il est adoré par ses joueurs et je pense que son message passe aussi très bien puisqu'on voit la progression. Donc finalement, il y a sûrement quelque chose qui se déroule bien dans le vestiaire. Et c'est aussi, voilà, son discours, comme tu disais, franche. Il réussit à amener une identité à Brest. Et ça, c'est vraiment très positif parce que quand t'as pas d'identité, c'est compliqué de trouver un fil rouge.
Quand t'es une petite
Et
équipe, on encore plus.
c'est ça. Et là, pour le coup, bah, je
Et on a
trouve
vu
qu'on a vraiment une.
la banderole des Dijonais aussi. Ça montre
Oui.
qu'il a laissé un bon souvenir, même quand il s'est fait virer, malgré ça. Il a laissé un très bon souvenir à Dijon. Et je pense qu'aujourd'hui, si on interroge les Dijonais, ils sont beaucoup plus à se souvenir d'Aloglio que leur président qui l'a limogé. Il le regrette d'ailleurs aujourd'hui, très certainement. Quand on voit qu'ils ont dû se taper Comboiré et puis maintenant Jobard à suivre, c'est certainement moins bien.
Le but de l'âne, qui est un peu l'épitomé de notre début de saison, c'est-à-dire qu'on prend vraiment de la confiance. Et ça, c'est un geste, je pense, qu'au premier ou deuxième match, il le tente jamais.
Ah, parce qu'il jouait pas.
Mais oui, mais à Nîmes, par exemple, je pense qu'il le tente pas.
Oui, non.
Et c'est vraiment une superbe action, hein, Batocchio, Belkebab, Belkebla, Charbonnier, puis l'âne. Et moi, je trouve que, comme le disait Dalloglio, ça veut dire qu'on tente des choses et qu'on joue plus avec la peur au ventre.
La confiance amène la confiance, tu
C'est
veux dire?
ça, et les victoires amènent les victoires, et les victoires amènent la confiance.
D'accord.
Donc tout est lié, et je pense que c'est vraiment très intéressant de voir qu'on marque ce genre de but actuellement. C'est vraiment agréable de voir que les joueurs ensemble aiment jouer ensemble, et ils jouent le même football aussi. Et ils n'ont pas peur de tenter des choses, même si aussi difficiles qu'elles peuvent
Même le
paraître.
Fossurier qui tente une tête sur un corner tiré
Oui,
rapidement.
c'est très beau.
Il y a plein de trucs qui sont essayés, qui sont tentés. Bon, après là, il y a quand même, faut pas se cacher, on a quand même pas mal de réussites en ce moment. Ça va peut-être tourner à un moment donné. Bon, d'ailleurs, ça a tourné aussi parce qu'on a fait beaucoup de poteaux, de barres transversales en début de saison. Bon, là, tu tentes de 20 mètres en reprise de volée, ça rentre. Voilà, c'est bien.
Après, comme tu fais bien de dire ça, parce que techniquement, alors toi, je sais que tu n'aimes pas trop les stats, la statistique, tout ça, mais techniquement, les stats avancées disent qu'on est un peu un sur-régime.
Oui.
Donc, voilà.
Mais ces mêmes stats ont dit la même chose l'an dernier toute la saison.
Voilà.
Donc,
Oui, c'est vrai que j'avais regardé le classement selon
Les
les.
XG.
Voilà, on était censé être avant-dernier, non? Un truc du
Maintenant,
genre.
on est monté un peu parce que le match contre Dijon nous
15.
a. On est en bas
14.
milieu de tableau, quoi.
Ouais, bon, de toute façon, pour moi, ça n'a pas de sens,
Voilà,
mais bon.
ça n'a pas de sens, donc je sais que tu n'aimes pas ça, mais
Mais c'est bien de les signaler, j'avais pas
c'est.
forcément raison. Du coup, prestations individuelles, je sais
Oui,
pas.
c'est ce
Il
que
y avait
je.
le, y avait plusieurs. En sortant du match, on s'est dit qu'on allait parler de plusieurs situations, et peut-être la première, c'est Charbonnier. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Dans tous ses déplacements, ses passes et tout, c'était plutôt bien. Il a juste eu des mauvais choix devant le but, en fait. Il a perdu un petit peu ce qu'il avait l'année dernière.
Ça, c'est le manque de confiance,
Ouais,
ça.
bah, du tout, ouais. Et du coup, parce qu'il a sa frappe de 35 mètres ou 40 mètres qui tente de manière un peu précipitée, finalement, parce qu'il y a Cour qui part à côté et puis même peut avancer. Il y a la reprise qui fait un peu en cloche, bon là ça passe à côté, c'était bien senti quand même.
Ça, c'est vraiment un très beau geste.
Et
Si
après
ça
il y a
rentre,
surtout
c'est
le plus
magnifique.
gros raté, c'est la passe en retrait de Paul Lannes, qu'il doit, soit il frappe d'un coup, soit il rate pas son contrôle, mais là c'est.
L'année dernière, il se la met sur la poitrine, il fait un retourné.
Oui, il fait ce qu'il veut,
Mais
mais il la
là.
met. Mais là en tout cas, je pense. Et du coup on l'a vu en fin de match rentrer au vestiaire, puis revenir un petit peu, puis voilà, il n'était pas du tout dans l'esprit. Enfin voilà, tu parlais d'un malaise un peu pour exagérer et rigoler, mais je sais pas ce que j'aimerais bien votre avis sur ce sujet.
Enfin, lui est dans un malaise avec lui-même. C'est pas vraiment un malaise par rapport
non, parce que dans l'équipe, dans le collectif, il est présent, et il joue très correctement.
Hein. Et je pense qu'il est assez simple, c'est le fait qu'il n'arrive pas à marquer et ça l'énerve. Et c'est normal que ça l'énerve puisque c'est un attaquant. Je pense qu'il aime marquer, même si il faudra lui poser la question de savoir s'il aime plus marquer que de faire des passes décisives.
Parce que sa passe décisive est très belle.
Magnifique. Je pense que c'est quelqu'un qui adore faire des passes décisives et aime faire marquer les autres. Donc, bon, visiblement, il ne le prend pas comme un but, parce que sinon, je pense qu'il aurait...
Je ne sais pas pourquoi il a cette réaction de rentrer au vestiaire illico. Enfin, l'équipe a gagné, on est en Ligue 1, il a fait un bon match, il n'a pas marqué d'accord, mais il fait une passe, il a servi vraiment à l'effectif, il ne sort pas, il joue les 90 minutes.
Il a été très bon dans la conservation du ballon.
Même dans les efforts, dans le repli, on le voit aller assez bas. J'ai un peu de mal à comprendre.
En fin de match, il était très très bon, très très je pense précieux.
Que ce qui lui a vraiment pesé, c'est la troisième occasion dont on parle. Pour moi, c'est même manque de chance. Quoi. Je veux dire, s'il ne pleut pas autant ce soir-là, son contrôle, c'est vraiment, on ne va pas se mentir, c'est un des plus gros loupés de la semaine. Bien sûr, donc je pense que c'est ça qui met la tête dedans. Mais voilà, c'est pas salé, je suis sûr que.
Mais tu vois, il aurait par exemple raté tous ses contrôles. Il serait sorti à la 60e, sifflé par le public et tout. On aurait pu vraiment là parler de malaise en disant, bon, il y a un truc avec Charbonnier. Mais là, il fait quand même un match qui est plutôt bon. Enfin, moi, je ne sais pas combien tu lui as mis comme note, Quentin, mais. Moi, je sais pas, j'aurais mis un truc genre 6 ou sur 10, quoi.
Ouais, 6, je crois que j'ai mis.
Puis même le public s'y est pas trompé, parce que juste après son gros loupé, tout le stade a commencé à l'encourager, à sonner son nom.
Faut pas oublier tout ce qu'il a fait la saison dernière et l'enterrer au premier raté. Enfin, il y a des gens qui... on sait que c'est plus difficile la Ligue 1 pour lui, il y en a qui passent pas le cap, on parlait de Furlan comme coach. Lui, en tout cas, c'est peut-être comme Batocchio, d'ailleurs, dont on parlera tout à l'heure. Maintenant, on l'attend peut-être dans un autre rôle aussi. Et du coup, ben, la vie des gens qui ne vont voir que Brest que trois fois dans l'année ou par simplement les résultats sur Internet se disent Charbonnier, il marque plus, donc il est nul. Il faut peut-être aussi faire... changer sa réflexion autour de ça. Et ben, Tokyo, c'est pareil, il y a...
Pour rebondir sur Charbonnier, la semaine dernière, je l'avais mis dans mon homme à suivre et on avait vraiment parlé du fait que déjà, il ne marquait pas, mais il ne se créait pas d'occasion non plus. Il en avait plusieurs et ça passe par là aussi. Uniquement, ça peut aussi... empiré parce que si tu rates toutes les occasions, bah la non-confiance apporte la non-confiance.
Charbonnier voilà, buteur à Amiens.
On nous souhaite. Hein. Mais donc Batocchio, tu voulais
revenir. Je voudrais revenir sur Batocchio parce qu'on va entendre notamment Rouillot tout à l'heure qui en parle et qui n'est pas forcément fan de son positionnement, sans remettre en... Parce qu'il est grand fan du joueur, mais pas de...
Comme nous tous.
Ouais, carrément. Mais pas grand fan de son positionnement. Il souhaiterait le voir, comme il le dit, milieu offensif central, plus haut dans le jeu. Et là, finalement, il a un rôle un peu à la Grougie l'année dernière en jouant très bas, en prenant pas beaucoup de risques, mais en touchant beaucoup, beaucoup de ballons. Et il en a récupéré beaucoup aussi,
Yann, tu disais. Grougie l'an dernier
Grougie l'année d'avant, la première année avec Furlan.
D'accord.
Lorsqu'il le fait redescendre un petit peu, enfin, sa dernière année à Brest, en fait.
Ok.
Et tu disais, Yann, justement, quand on préparait, qu'il avait récupéré. C'est lui qui a récupéré le plus de ballons.
Ouais, 18 ballons récupérés, le deuxième Brestois et à 11.
Ah, c'est énorme, 18 ballons. Déjà, il en récupère 3 dans la première minute.
C'est énorme.
Sur Wooscord, il a 2 ballons interceptés.
Ah non, c'est pas possible. Déjà, au bout de 5 minutes, il en a déjà récupéré 2.
Ce sont les stats de la LFP.
Mais après, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ballon récupéré.
Si on prend les stats de la LFP, en tout cas, c'est lui qui est devant. Mais ce qui est.
C'est pas un joueur qui est censé, qu'on était habitué à avoir récupéré des ballons, de toute façon.
Après, c'est une bête à pressing.
Oui. Et je trouve que.
Pour le coup, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle on récupère le ballon plus haut.
C'est ça.
C'est parce que, un, on a Batocchio. Deux, on a Belkebla qui joue aussi plus haut. Trois, on n'a pas Autrette. Qui, lui, ne court
jingle
pas.
Jingle joie.
Qui ne court pas trop, trop. Non, mais c'est vrai. Étant donné qu'il n'y a personne devant Belkebla, il est plus à même à aller un peu plus haut. Et bah, plus haut, normalement, il y a Autrette. Et là, il n'est pas là. Donc, tu remplaces un Autrette par Belkebla. Logiquement, tu vas récupérer des ballons. Un plus nombreux et deux plus hauts.
Et ce qui est bien avec ce nouveau dispositif, c'est que autant la paire Diallo-Belkebla, on avait beaucoup parlé au début de saison, elle nous plaisait, enfin, voilà. Mais c'est quand même deux joueurs au profil un petit peu similaire qui ont du mal dans la projection vers l'avant, même si Belkebla c'est mieux, au niveau de la passe, au niveau de... Voilà. Parce que je trouve que Lan et Batocchio font mieux. Alors, ils récupèrent moins, mais dans l'animation, dans la verticalité du jeu, c'est mieux. Parce que Diallo, il est très bon à la récupération, il avance un peu balle au pied, mais après c'est quand même souvent horizontal, ça va à droite, à gauche. Il n'y a pas de passe qui casse des lignes ou quoi, que Batocchio ou autre, ou Paul Lann peut faire.
CF le but.
Oui, absolument. Batocchio pour Belkebla qui décale bien Charbonnier.
Mais elle est vraiment sous-côté cette passe de Batocchio pour moi.
Oui, il y a 4 joueurs.
Elle change la ligne.
Il y a 4 joueurs qui sont.
Elle change l'action. C'est elle qui déclenche l'action, c'est elle qui lance l'action. C'est pour moi la plus importante. Après, c'est pas la plus difficile, hein, mais c'est la plus importante du but.
Ah, mais il faut la sentir. Il faut sentir Belkebla, il faut sentir le décalage qui est possible. Et Batokyo, c'est un joueur, je pense, qui sent le jeu et techniquement qui est assez fin et à l'aise. Et aussi physiquement qui a l'air beaucoup mieux, beaucoup plus affûté qu'en début de saison.
Soit il a pris une taille de maillot au-dessus et ça va, soit il est beaucoup plus.
Non, même au niveau de son visage et tout, les photos, il était beaucoup plus rond en début d'année. Et là, je pense qu'il a travaillé physiquement pour revenir. Et du coup, pareil, comme disait Quentin, la confiance amène la confiance. Lui, le temps de jeu, il commence à le gagner. Ça fait deux matchs de rang qu'il est titulaire. Et je pense que certainement, ben, il a envie de conserver sa place. Il fait peut-être encore plus. C'est vachement positif, je trouve.
Et là où je le trouve encore plus utile, c'est que avec ce Batokyo-là, on peut se permettre de relancer très court. Mmh. On l'a vu beaucoup plus beaucoup repartir.
Bah, il descend entre Casseto et bas, en fait.
Ouais, il fait un peu comme Jesse Peele en dernier. Bon, c'est pas forcément.
Ou Marquinhos quand le PSG joue avec Marquinhos en 6 et qu'il descend entre Thiago Silva.
Mais il est plus dynamique que Pi. Et du coup, il demande plus vite les ballons.
Ah oui, bah ça. Il est largement meilleur que Pi.
Mais déjà, je pense que c'est un joueur très intelligent et meilleur techniquement qu'un 6 normal,
lambda,
traditionnel. Il arrive à faire le lien entre la défense et l'attaque, c'est quelque chose qu'on avait peut-être un peu du mal, et c'est pour ça qu'il a été replacé plus bas à la mi-temps contre Angers. Il manquait vraiment ce lien entre la défense et l'attaque. Et je pense
c'est une des bonnes trouvailles de Dalloglio, je pense.
Oui.
Ça.
Après, combien de temps ça peut durer? Parce qu'on connaît Steve qui a parfois du mal à respecter les règles et les consignes. Pour l'instant, il le respecte à merveille.
Bah, je pense que s'il veut garder sa place, si tu veux jouer, à mon avis, tu vaut mieux jouer titulaire et jouer pas forcément à ton poste plutôt que faire 20 minutes à ton poste mais commencer le match remplaçant.
Bah, je suis sûr que lui, il préfère jouer un peu plus bas et jouer tout le match que jouer sur un côté, par exemple.
Sachant qu'on est en Ligue 1, enfin, il peut pas espérer beaucoup mieux actuellement.
Et il arrive à faire des corners presque rentrants.
Ah oui, là-bas.
Ouais. Pour la prochaine fois, peut-être.
Encore un but sur coup de pied arrêté.
Oui. C'est grâce à Denis. D'ailleurs, on peut revenir peut-être sur Denis.
Bah, Denis, c'est Denis. C'est Denis Le Saint.
C'est Denis ou Denis?
Denis.
Denis, allez.
Très. Pour moi, c'est top recrue, Denis. Ah, même s'il a pris un rôle.
Pour le total de.
Et puis, je trouve que. 0€.
0€.
On ne le répète pas assez sur ce podcast. Et même, il était invité de tout ce stade l'avant-match et tout. Et même dans sa manière dont il s'est exprimé après son carton rouge en disant qu'il avait fait une erreur, qu'il fallait respecter les décisions de l'arbitre. Enfin, il a l'air
lui,
très,
même,
très
il a
bien.
Il n'a même pas crié sur
non,
le.
Non, non, il
était calme.
Il a l'air tout à fait. Enfin, vraiment, un gars qui a l'air très bien. Et. Ce podcast, en tout cas ma voix dans ce podcast, est totalement fan de Denis Bain. Je trouve que c'est une très bonne idée, très bonne pioche, gratuite, qui fait le travail et qui progresse.
Oui.
Et qui marque en plus, c'est fabuleux.
Et pour le coup, je ne prends pas trop en compte son carton rouge, parce que c'est un carton rouge entre guillemets utile, c'est-à-dire qu'il enlève un face-à-face, on ne sait jamais.
Donc c'est pas un truc idiot,
c'est pas un coup de coude ou un tacle en retard ou un geste.
Poke,
déplacé qui n'aurait servi à rien, tel un rugbyman français face au Pays de Galles. Voilà, c'est vraiment.
On parle pas de rugby ici, on parle de vrai sport.
Ok. On arrête là alors pour la comparaison avec le rugby. Mais voilà, Denis Bain, un football club.
Et on parlait également des tacles de Johan Cour un petit peu inconsidérés parfois. Je sais pas si vous avez vu la déclaration d'avant-match de Belkebla quand il reconnaît la pelouse et il dit. Johan Cour va se faire plaisir aujourd'hui, il va encore tacler n'importe comment, et puis bingo, ça n'a pas raté devant le gardien. Il est parti en 6 mètres que le Dijonais.
Il est parti en tribune britannique ferrée.
Voilà. Et c'était. On a bien rigolé quand on a vu ça. Mais au moins, on ne peut pas remettre en cause l'implication et la volonté de Johan Cour à faire du pressing.
Non, tout comme celle de Samuel Grandcyr. Encore un peu en difficulté avec le ballon, mais toujours dans l'esprit, de plus en plus, je pense, dans l'esprit brestois au fil des matchs. Il a encore été contre Dijon et il est sur le réseau. Il s'est moqué de lui-même sur la chute après le but de l'âne.
Moi, je suis moins fan de Grandcyr quand même. Enfin, je ne suis pas convaincu toujours. Même s'il fait du pressing, d'accord, pour moi, ce n'est pas suffisant. Et pour un joueur offensif et créatif, il apporte trop peu.
Je ne suis pas convaincu non plus, mais je rejoins Quentin sur le fait qu'il a l'air d'être de plus en plus intégré au cast, où on voyait qu'en fait, il y avait trop de joueurs qui combinaient ensemble et lui était de son côté. Et c'est de moins en moins le cas. On voit beaucoup plus passer à gauche, dans l'axe, au milieu. Enfin.
J'ai pas l'impression qu'il a un potentiel en fait supérieur à ce qu'il nous démontre. Je pense qu'il a un niveau là et bon bah.
Après, il faut se souvenir aussi qu'il a pas beaucoup joué l'année dernière.
Ouais,
c'est peut-être vrai. Que ça prend un peu de temps à
il
remettre
pas,
la machine
en
route.
Il peut pas dire que Olivier Delgueux ne fait pas tout pour le remettre en scène.
Ah non, ça
c'est
quand
même
sûr
très,
que...
très souvent titulaire.
Oui, ouais, c'est sûr qu'il a la confiance du coach. Peut-être que même c'est une clause dans le prêt. Avec
bah, j'y ai pensé, mais... je me dis qu'il est fait jouer tout de suite, comme ça on sera tranquille après. Mais bon, après, choix égal entre Autre et Grandcyr, je trouve que Grandcyr propose plus finalement, en tout cas dans l'implication.
Ah, c'est pas le même poste déjà. Donc.
Non, mais, ouais, mais c'est quand même bon, des joueurs plutôt offensifs. Après, ton système, tu peux l'adapter, mais bah, quand tu dois faire un choix qui reste plus qu'une place, bon, son implication et le travail, ça doit compter aussi dans la réflexion de Dalloglio.
Oui, bah, j'espère en tout cas. Après, il y a Cardona, il y a Mendy.
Pouah! Quel effectif?
Ah ouais, c'est pléthorique. Pléthorique.
Au niveau des prestations individuelles, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
Un homme du match, peut-être, pour chacun d'entre vous.
Moi, Paul Lann. Je trouvais très
bon. Sa chronique.
Non, très bon dans ce qu'il a fait. Pour moi, c'est vraiment un joueur de Ligue 1. Et il a fait beaucoup de bien à l'équipe.
Expérience.
Expérience, but. Il aurait pu marquer un deuxième, faire une passe décisive à Charbonnier.
Et à court.
Non, pour moi, c'est Paul Lann, homme du match. Je dis pas que c'est nouveau Zidane, mais c'est bien.
Pour moi, Batocchio, dans le sens où c'est peut-être pas celui qui a le plus performé. Mais je pense qu'on aurait souffert de son absence. C'est un peu le joueur, bon, on va pas pousser la comparaison, mais c'est comme Busquets, quand il est là, on fait pas trop attention.
Mais quand
s'il est pas là, ça peut faire mal. Après, il y avait Diallo derrière.
Ça, on verra quand il sera pas là.
C'est ça.
Parce que pour l'instant, on n'a jamais joué dans ce système tactique sans lui. Donc à voir qu'est-ce que ça donnera avec un Diallo, par exemple. Moi, je vais mettre Castelletto, parce que j'ai trouvé très très bon et de plus en plus fort.
Tu disais d'ailleurs, il y a quelques podcasts qui ne progressaient pas vraiment, et depuis 3-4 matchs, là, c'est beaucoup mieux quand même.
Oui, c'est... Alors peut-être qu'il joue parce que à côté de du monstre Denis Bain aussi.
Ou alors parce qu'il écoutait le podcast.
Ah bah, je prends total crédit pour sa progression récente.
Mais quand tu le disais, j'étais d'accord, mais je trouve que c'est récent et c'est assez fulgurant là, depuis son but contre Metz.
Personnellement, je ne veux pas le cacher, j'avais des doutes concernant son adaptation à la Ligue 1 après la Ligue 2. Parce que déjà, je trouve qu'en Ligue 2, il ne dominait pas, quoi. C'est un très très bon défenseur de Ligue 2, mais il dominait pas comme un Ismaël Traoré avait pu le faire quand il jouait avec nous. Mm-hmm. Par rapport à son physique aussi, qui est assez frêle, je me demandais ce qu'il allait
pouvoir valoir. Il a mis un sacré taquet à un moment.
Ouais, voilà, j'allais y venir. Vraiment, pour le coup, là, c'est une très très bonne surprise. Et Castelletto s'affirme de match en match, et comme tu disais, avec un immense coup d'épaule à un Dijonais qui est parti, lui, en tribune Foucault directement.
Oui.
Très très bon match.
Sans faute.
Impeccable.
Bon, je pense que pour Dijon, on a été assez complet.
Tout à fait. Alors, on peut peut-être passer aux déclarations de supporters.
Oui. Alors, on a rencontré Rulio, Victor et Antoine qui nous ont parlé. Donc, Rulio, c'est à la mi-temps du match. Alors, donc, du coup, c'est un peu plus compliqué de réagir forcément à la mi-temps quand on n'a pas le recul sur le match et là, quand on ne connaît pas le résultat. Et Victor et Antoine, c'était après match. On les écoute.
Alors, Rulio, ton avis sur le début de saison et sur notre équipe en Ligue 1 cette année?
Bah écoute, moi je suis très content dans le sens où on a une équipe qui fait plaisir à avoir joué déjà. Limite presque on a envie d'être leur pote, hein. Franchement, c'est une équipe qui vit bien, ça se voit. J'ai aucun doute, aucun stress par rapport au maintien.
C'est très ambitieux. Pour toi c'est...
Ouais, c'est très ambitieux de dire ça au bout d'une dizaine de journées, mais je le pense. Parce que je pense qu'avec notre milieu de terrain, même si là Diallo est pas là ce soir et je comprends pas trop.
Donc on est à la mi-temps du match quand on s'enregistre.
On est à la mi-temps.
Pour l'instant Diallo joue pas.
Il y a 0-0. Batocchio à la place de Diallo, je suis pas convaincu du tout alors que j'adore Batocchio. Mais pour moi c'est un MOC.
Tu veux pouvoir jouer plus haut.
Mais ouais, c'est un MOC, Batocchio, c'est pas autre chose. Lann à la limite en relayeur à la place, voilà, ok. Mais certainement pas ce qu'il a fait aujourd'hui. Bref, c'est pas grave. Moi je pense tout simplement que face aux équipes qui peuvent avoir notre niveau, donc la deuxième partie de moitié du championnat, on est large au niveau. Et cette équipe me donne plus de sérénité largement que quand on est monté en Ligue 1 la dernière fois. Pourtant on a été leader. Et là, je suis pas inquiet, je suis vraiment pas inquiet, je sens que on va faire une belle saison à la Reims de l'année dernière.
Enfin, est-ce en tout cas, c'est ce que tu as des satisfactions ou des déceptions au niveau des recrues si vous...
Bah Grand-Cyr, j'y croyais. J'y croyais parce que je l'avais dans mon équipe MPG avant, donc je le suivais un petit peu. Mais non, c'est clairement la déception pour moi, ouais. Ultime du recrutement. Et Paul Lann.
Et côté satisfaction?
Ah bah côté.
Le fait de reprendre Diallo, peut-être tu disais.
Ah bah Diallo, de toute façon, c'est clairement le meilleur coup qu'on ait fait. C'est un mec qu'on va revendre peut-être 20 millions s'il continue comme ça dans 2 ans. Donc ouais, là c'est clairement une grande satisfaction. Cardona aussi parce qu'il il percute. J'aime les mecs qui percutent comme ça. Et je pense qu'il devrait jouer un petit peu plus. Et moi ce que j'aimerais à terme, c'est voir Charbonnier qui tourne autour de Cardona. Point, voilà, c'est clairement ça que je veux. Avec Cour sur un côté. Voilà, et c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Parce que je pense qu'il faut arrêter de penser qu'on est promu, certes. Il faut arrêter d'avoir ce complexe d'infériorité. On a vu contre des grosses équipes, même en difficulté comme Saint-Étienne et Lyon, qu'on est capable de rivaliser largement. encore une fois, avec notre milieu de terrain. Et il faut qu'on travaille sur le côté tranchant. Il faut qu'on travaille sur le côté tranchant de nos occasions. Cardona l'a montré l'autre jour. On sait le faire, on peut le faire.
Merci Rouillot.
Bah de rien, avec grand plaisir. Deuxième, et vive Brassonnaire. Chaque semaine, je vous attends, les gars.
Alors Victor, ton avis sur le match ce soir?
Les 3 points, qu'en demander de plus?
Est-ce que t'as un avis sinon plus général sur le début de saison, sur l'équipe en général? Toi qui suis, on sait que t'as fait quasiment tous les déplacements, t'as vu quasiment tous les matchs.
Ouais.
Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison en Ligue 1?
Bah, je trouve que c'est dans la continuité de ce qu'on produisait la semaine l'année dernière. Quoi. C'est-à-dire on fait du jeu, même si on a perdu Furlan en tant que coach, pour l'instant, avec De Oglio, ça se passe très bien. Les joueurs continuent à faire du bon taf. Et à continuer à avoir une bonne relation avec nous, donc franchement il n'y a rien à dire, on est 6ème je crois, ouais. 17 points.
Toi en tant que supporter et membre actif, tu te reconnais dans l'équipe?
Ouais, carrément, quand t'as des charbots, quand t'as un mec comme Bren dans l'équipe, Chardonnier, Larceau, ou alors Autrel.
Belkebla peut-être?
Belkebla, c'est un peu le chouchou du public, mais c'est sûr que ouais, ça, franchement ça fait plaisir, et puis même 17 points fin octobre.
Qu'est-ce que tu attends de cette saison du coup? Tu joues le maintien jusqu'au bout ou t'espères mieux toi?
Oh non, le maintien c'est tout. Le maintien, une victoire contre Rennes ou Nantes pendant le derby. Et...
pour pimenter la saison.
Voilà, c'est tout. Ok. Franchement c'est top.
Et niveau juste recrue, qui te plaît, qui te plaît pas, t'as une déception ou une satisfaction particulière?
La meilleure recrue c'est la prolongation de Belkebla cet été. Et après, même s'il a son rouge ce soir, Denis Bain, ça va.
D'accord là-dessus. Bon, merci Victor. Alors du coup Antoine, qu'est-ce que tu retiens de cette performance? Peut-être le collectif ou un joueur qui t'a plu davantage, d'autres qui t'ont déçu peut-être?
Alors pour un joueur, je mettrais peut-être Belkebla.
Un Algérien qui ne lâche rien,
voilà, fidèle à lui-même, gros abattage comme d'habitude. Après offensivement, je trouve pas qu'il y ait un joueur qui se dégage particulièrement, c'est plus le collectif.
Justement, peut-être offensivement, je rebondis sur ce que tu dis. Qu'est-ce que tu penses du match de Gaëtan Charbonnier qui ne marque pas, mais qui se montre quand même volontaire dans le jeu, mais qui râle, qu'il est énervé peut-être contre lui-même?
C'est ça, ouais. Je pense c'est clair qu'il est en manque de confiance. Il y a au moins 3 fois où il fait un mauvais choix. Je pense que c'est l'année dernière, sur les occasions qu'il a, il en met peut-être 2. Après, ouais, je pense que ça le sort un peu de son match, même si, ouais, comme tu dis, il fait pas un mauvais match en dehors de ça. Mais ouais, ça le met, il fait du charbonnier en colère, tout ça, il sort son match, après il perd direct au vestiaire à la fin du match. Voilà, j'espère qu'il lui faudra un but pour se remettre dedans.
Sinon, c'est peut-être un avis un peu plus général sur ce début de saison. Là, on voit qu'on a 17 points après 11 journées, donc on peut qualifier de bon, voire même très bon début de saison pour un promu. T'en espérais autant
Je pense qu'on ne pouvait pas espérer plus. Depuis les 3 derniers matchs, on peut vraiment dire que le début de saison est positif. Surtout que là, on voit qu'on gagne contre les équipes de notre championnat, entre guillemets. On n'est pas à l'abri d'une rechute, mais c'est vraiment positif jusqu'ici. Quoi.
Ok, très bien. Et peut-être maintenant un espoir, qu'est-ce que tu souhaites voir cette équipe gagner? C'est, je sais pas, un derby, un gros match contre le PSG, un parcours en coupe. C'est quoi ton espoir un petit peu personnel sur cette saison
Moi, ce que je m'étais dit en début de saison, c'est l'objectif numéro 1, c'est le maintien. Après,
tu restes là-dessus, quoi. Faut pas s'enflammer.
Ah non, faut clairement pas s'enflammer. Après, voilà, je m'étais dit si on peut faire de bonnes prestations dans les derbies, ça serait un plus, mais ouais, ça reste le maintien.
Très bien. Je crois que tu rejoins l'avis de pas mal de Brestois qui, justement, gardent cet objectif du maintien en tête. Et je pense que c'est plus sage.
Tout à fait.
Merci Antoine et bon appétit.
Merci à vous.
Alors, après, donc, c'est. Déclaration très pertinente de nos amis supporters brestois qui sont parmi les plus intelligents de France, je pense qu'on peut facilement...
Et des fidèles du podcast également, parce qu'ils écoutent toutes les semaines et on les remercie parce qu'ils ont accepté avec gentillesse de nous répondre et ils nous ont envoyé un message avant le match comme quoi ils étaient ok, donc c'est sympa.
On espère que ça vous plaira, parole de supporters, peut-être une nouvelle rubrique dans ce podcast, mais on va passer aux habituels de ce podcast avec donc les news et les résultats des équipes de jeunes et des féminines, puisque donc les féminines, ça gaze. On va commencer peut-être d'ailleurs par elles, pour les récompenser, puisque 5e victoire consécutive contre Saint-Maur, cette fois, à domicile. Victoire 1-0, but de Myriam Zanoubi sur penalty. Et elle profite du match nul de Issy-les-Moulineaux à Nantes pour prendre la première place de D2. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, si on arrête le championnat, elle monte en D1. Orléans, dimanche à 13h. Donc la N3 n'a pas joué puisqu'il y avait week-end de Coupe de France. Il y avait 4 clubs nord-finistériens engagés dans ce 6e tour.
C'est la déception.
C'est du 50%. On pouvait s'attendre à mieux. Bon, Plabennec a écrasé Fougères 6-1. Avec un but de Nicolas Pellen, un ancien Brestois, formé à Brest, et frère de Michael Pellen, donc qui entraîne les 18 qui ont gagné. On va y revenir. Bourblanc a perdu 1-0. Kipava a perdu au tir au but.
Emile Isaac a gagné.
Emile Isaac qui a écrasé Dinard 4-0, sans Bruno Bourgi qui n'était pas là. On ne sait pas où il était, mais il n'était pas là.
Donc, tirage au sort de la Coupe de France ce mercredi. Donc, vous savez déjà le tirage à l'heure où vous écoutez le podcast. Donc il y a des clubs de Ligue 2 qui entrent maintenant en compétition.
C'est ça.
Et la Ligue 1 entrera début janvier, donc pas Brest. Il y a encore 2 tours de coupe qui se jouent sans la Ligue 1, il me semble.
Oui.
Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir Bruno Grugy mettre un coup franc à l'en-avant de Guingamp.
Oui, ah bah. Ça on le souhaite.
À Francis Leblay en plus ça devrait être. S'il joue Guingamp, Milizac, ça devrait être à Francis Leblay. Surtout que le président de Milizac et Denis Le Saint sont très amis, donc il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus. Alors, les U18 jouaient en Coupe Gambardella à Plouvorne, donc il me semble que c'est un des clubs partenaires du Stade Brest.
Oui, c'est ça, partenaire.
Et bah, pas de partenaire sur le terrain, parce qu'ils ont écrasé 5-0, but de Samuel Gentil, doublé de Lucas Gélébar, but de Rémi Moguin et de Chris Bassakila. Ils joueront le deuxième tour régional face à Vitré, samedi 15h à Penhélène. Donc n'hésitez pas à aller faire peut-être un tour.
Ils enchaînent samedi directement.
Oui.
Les U17 ont été par contre un petit peu ralentis.
Oui, ralentis après une très belle série de victoires. Défaite dans le choc contre le voisin costa-armoricain. Donc défaite 2-0 à Guingamp. Guingamp qui prend la tête du championnat devant Brest. Et il n'y a pas de match ce week-end pour les U17. Alors que les autres jeunes n'ont pas joué car ce sont les vacances. Alors, on va peut-être passer aux anciens Brestois et la pléthore, comme je l'avais dit.
On va devoir se partager le travail avec Yann, parce qu'il y a trop de boulot là. Je commence par Lenny Pintor.
Son classique.
Voilà, qui a marqué, comme on nous l'a signalé, qui a marqué contre Lorient, qui a donné la victoire à 3 dans la 87e minute de jeu. Un beau but, hein, d'ailleurs, beau mouvement. Et donc 3 qui s'impose à Lorient, c'est plutôt agréable à voir. Donc bien pour Pintor qui est prêté par Lyon à 3. En première ligue, Yann, on a un autre Brestois qui a brillé encore.
Nil Mopé. Bon, c'était un but sur penalty, certes, mais bon, c'est un but de plus. C'est un but qui donne la victoire à Brighton. Brighton qui était mené 2-1, puis qui l'emporte 3-2 vraiment sur le fil.
Avec un but contre son camp de Luc Hadding.
De Luc Hadding, tout à fait. Et qui confirme un très bon début de saison, ou en tout cas au-dessus de leurs attentes.
Les meilleurs buteurs français de première ligue avec Sébastien Allaire.
Oui, très bon joueur aussi.
Sinon, au niveau des anciens Brestois, il y a encore eu des buteurs, notamment dans le match qui opposait le Paris FC à Caen. JCP et Baïsama Sanko ont marqué tous les deux sur pénalty, victoire de Caen 4-2. Et dans le match qui opposait Clermont à Guingamp, il y a eu un but de Jason Berthomier et un but de Nolan Roux, mais qui a gagné ?
Pas Guingamp.
Et pas Guingamp, parce que Clermont a gagné 2-1.
L'agent double qui continue son travail voilà. De sape, même quand il marque, Guingamp ne gagne pas.
Bravo à lui.
C'est vraiment un travail bien fait.
Et après, il y a eu des joueurs qui ont également brillé sans pour autant marquer. D'ailleurs, on pense à Valentin Henry, qui a fait une nouvelle passe décisive. Donc, Rodez sont pas trop mal en Ligue 2. Hein,
on peut parler de caviar, même.
Ouais, super centre.
Vraiment.
Pour Bonnet, leur attaquant qui marque beaucoup de buts. En tout cas, Rodez fait un début de championnat très, très intéressant pour un promu. Sachant qu'ils ne jouent pas encore dans leur stade. Ils jouent à Toulouse, donc c'est
intéressant. Et Valentin Henry aussi.
Valentin Henry, voilà, titulaire à tous les matchs, quasiment. Tu voulais parler de Robin Lenormand, Quentin ?
Oui, pourquoi pas. Très bon match encore une fois pour Robin Lenormand qui continue de s'affirmer en défense centrale avec la Real Sociedad. Il est d'ailleurs dans l'équipe des Français de la semaine du site internet de l'équipe, donc qui confirme effectivement son bon match, même si il y a eu un petit imbroglio avec la VAR qui a regardé une petite main peut-être de Robin Lenormand, mais l'arbitre n'a pas...
La Real Sociedad qui est très bien placée au classement.
Qui a gagné donc à Vigo face au Celta avec un but de Isaac, donc le jeune... attaquant suédois, la Sociedad qui n'a donc pas pris de but, et ça en grande partie grâce à Robin Lenormand qui quel parcours quand même, hein, de passer de la réserve du Stade Brestois à jouer les premiers rôles en Liga. C'est assez impressionnant.
Et également une petite pensée pour Franck Ribéry, je tenais à le signaler, ancien Brestois. On parle de Romain Arnement qui n'a pas joué un match pro avec Brest. Parlons de celui qui a fait une saison, enfin c'était pas en pro non plus du coup puisque c'est un national, mais Ribéry qui a brillé avec la Fiorentina, qui a fait ressurgir son caractère de débilose mentale en prenant un carton rouge, enfin en tout cas en étant suspendu 3 matchs après avoir bousculé un arbitre.
T'as 36 ans quand même, Francky. Hein.
Il est un petit peu temps de se contrôler, mignon.
Et si on parle de débilose mentale, on va parler d'un dernier Brestois qui brille ces dernières semaines, c'est Charlison Benchop. Ah. C'est pas un très bon souvenir pour nous, mais il est aujourd'hui à Groningen et il est sur 3 buts en 3 matchs. Donc, par contre, Groningen, c'est milieu de tableau aux Pays-Bas.
Parlant d'ancien Brestois,
oui.
En parlant de Charlison Benchop, son ancien compère d'attaque, Eden Benbassat, a marqué son premier but de la saison avec l'Apoel Haïfa.
Ah, j'aimais bien Benbassat.
Donc face à l'Apoel Tel Aviv, victoire 3-0 de son équipe. Il a 33 ans, donc il évolue en Israël depuis qu'il a quitté Toulouse, donc 5 ans à peu près.
Il aura fait sa seule bonne saison chez nous.
Ouais, c'est ça.
Non, pas de sa carrière. Mais...
Ouais.
Bah, il y a 2 ans, il était à 12 buts en 13 matchs. Quand même.
Voilà, bon, maintenant que les anciens Brestois s'est fait, peut-être un point sur ce qu'on attend, nous, du match de Coupe de la Ligue, donc qui s'est joué hier pour vous, puisque vous écoutez ça soit jeudi, soit ce week-end. Nous, on enregistre le mardi, donc c'est évidemment délicat, c'est un peu le même cas de figure que lorsqu'on avait dû parler du match de Lyon. D'après ce qu'on sait à l'heure actuelle, les équipes vont être remodelées de part et d'autre avec des absents messins, notamment Diallo. Moi je pense qu'il faut absolument jouer cette coupe à fond pour donner justement du temps de jeu aux remplaçants, qu'on peut parler à Autrette maintenant, à Perrault qui doit absolument aussi peut-être revenir, hein.
Ouais, tu vois, dans ce que Diallo, tu dis, il y a un paradoxe.
Pourquoi ?
Il faut jouer la coupe à fond, mais il faut faire jouer les remplaçants.
Non, mais parce que les remplaçants sont au niveau.
Oui, mais donc il faut...
Il faut que les remplaçants jouent à fond.
Il faut que les remplaçants jouent à fond.
Voilà, les remplaçants jouent à fond, mais le club ne va pas le jouer à fond.
Non, mais c'est logique, tu ne vas pas faire jouer. On n'est que Brest.
C'est ce que disait Olivier Daouillio aussi. Il disait on joue à fond, mais il va faire tourner. Donc finalement...
Tu peux jouer à fond en concernant tout le monde, en impliquant tout le monde dans ton projet.
Toi, tu ne joues pas à fond, quoi. Ce sont les joueurs qui doivent jouer à fond.
Ouais. Après, genre Diallo et Autrette qui vont certainement jouer, il y a 2 matchs, c'était des titulaires. Il va pas non plus faire jouer la réserve, quoi.
Non, mais il va pas. Enfin, ce sera pas comme une importance de match.
Bah non, mais il y a une hiérarchie quand même. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a une hiérarchie qu'on va laisser passer la coupe. On sait qu'en Coupe de la Ligue, on est généralement médiocre.
Une victoire.
Je pense que ça pourrait être. Il y a peu de matchs. De toute façon, maintenant, puisqu'on rentre en 16e de finale, aussi bien on va le perdre et on va se dire la Coupe de la Ligue comme d'habitude. Mais pour moi, gagner ce match-là, ce serait intéressant pour avoir...
Après, je ne suis pas en désaccord avec toi.
Ouais.
Pour moi, paradoxe.
Il faut jouer le... En tout cas, il faut jouer le coup à fond.
Oui. Moi, pour plusieurs raisons. Alors, un, pécunier. Parce que généralement, la Coupe de la Ligue, c'est pas mal au niveau... Comment ?
Financier.
Oui, financier. Donc, les retours, les récompenses que offre la LFP pour cette coupe qui donc sera supprimée après cette saison, ou alors Olivier Daloguio le dit plutôt remodelé que supprimé. Aussi continuer à gagner
la dynamique.
Et la dynamique, voilà, qui est importante.
Surtout qu'on a un adversaire à notre portée là, qui visiblement va faire jouer des jeunes. David Diallo sera pas là, il y a un coup certainement à jouer.
Ça, c'est tellement dur de gagner cette confiance quand on est promu que pour moi c'est important de la garder le plus longtemps possible.
Et contrairement à la Coupe de France, on rentre déjà en 16e, donc tu gagnes deux matchs, tu es en quart de finale.
C'était mon prochain point, c'est le chemin le plus court vers l'Europe.
Oui.
Même si on
tu le dis à rigolo, mais c'est vrai finalement.
On arrivera à l'avoir en championnat. Et donc, Daloguio, comme je le disais, a montré que quand tu étais bon sur un match, ça, tu pouvais continuer à être titulaire. Et la Coupe de la Ligue pour les remplaçants, pour ceux qui ont perdu leur place, c'est une très bonne opportunité pour montrer à Olivier Daloguio que tu es quand même méritant d'une place de titulaire pour pourquoi pas contre Amiens ou pour les matchs suivants. Même si, bon,
c'est et autre élément qui fait que ce match tombe très bien, c'est que Denis Bain, alors tombe très bien, ça va être paradoxal avec le coup de jouer à fond, je suis d'accord avec toi, mais au moins Denis Bain va profiter de ce match-là pour être suspendu. Donc évidemment, si défaite il y a, elle serait frustrante et dommageable, mais c'est moins important finalement quand même que de perdre en championnat. Alors on ne sait pas aussi bien Denis Bain va prendre 2 ou 3 matchs. Mais au moins, il va en purger un en coupe, donc et ça permet de faire jouer du Verne ou Chardonnay. Moi, j'aurais mis du Verne.
Moi, je pense qu'il va prendre 2 matchs. Donc, plutôt que d'être suspendu contre le PSG, Il le sera contre, contre Metz, donc demandez
mon mauvaise nouvelle pour Mauro Icardi.
Non, bah moi, sur le match contre Metz, je vais être un peu à contre-courant, mais en fait, j'en ai pas grand-chose à faire. Quoi. Pour moi, je le prends un peu comme un match amical, où on va plus regarder les performances individuelles
que, ouais, c'est ça, c'est
que
ça.
Le résultat.
Bah après, enfin, individuel et collectif, quoi, c'est,
oui.
Bah, c'est agréable aussi de voir un match du Stade Brestois en semaine. Voilà, c'est, oui. Il n'y aura pas grand intérêt, mais bon, ça, ça passera le
on mercredi. On ne va pas bouger notre plaisir si jamais on gagne.
C'est sûr, mais bon, je rappelle quand même qu'en 14 ans d'existence de Coupe de la Ligue, on n'a gagné qu'un match au bout des 90 minutes.
Oui.
Le reste, c'est au péno.
C'est vrai.
Ça serait un peu beau d'ailleurs de la gagner.
Il y a toujours, c'est toujours les pénaux directs.
Oui.
Oui. Okay. Oui.
Donc pas de prolongation.
Non.
Et donc notre adversaire dont on va parler tout de suite, Amiens joue aussi en coupe. Hein. Donc eux, c'est à domicile contre Angers, avec également un turnover qui a été prévu parce qu'ils ont 32 joueurs pro, donc ce qui est quand même assez conséquent. Et ils vont faire beaucoup tourner, notamment leur ligne d'attaque dont on va reparler tout à l'heure, qui ne jouera pas contre Angers.
Donc Amiens-Brest. Par où est-ce qu'on commence? Encore une fois, c'est un match à notre portée face à une équipe qui jouera notre championnat. Donc l'idéal, voilà, ce serait de ne pas perdre.
Équipe
peut-être pas gagner, mais ne pas perdre.
Équipe un petit peu sous-cotée, je pense, à mon sens. Je pense qu'il y a des bons joueurs et également un bon entraîneur. Le choix de l'entraîneur a été assez comment dire, original. Et,
original, c'est bon.
Ouais, et puis aussi assez...
Osé.
Ouais, osé. C'est le, je cherchais un terme poli. Assez osé dans le sens où c'est un jeune entraîneur. Et de laisser sa chance à quelqu'un comme ça, je trouve ça intéressant. Et plutôt que prendre un Comboiré, un Elibo ou
fait,
un René Girard, c'est... Bon, on voit qu'il ne fait pas moins bien en tout cas. Et pour moi, c'est une équipe un peu sous-côté Amiens, dans le sens où ça joue plutôt bien. C'est un peu dans les petites équipes, celle qui est un peu comme nous, enfin, qui va vers l'avant. Et qui,
pour moi, il y a des vrais parallèles entre Luca Elsner donc, et Olivier Davigo.
Tu le connais certainement mieux que moi, mais moi, je... Voilà, pour moi, attention à Amiens, attention à cette équipe qui a mal débuté son championnat, 4 points en 5 matchs, mais qui depuis le 25 septembre n'a pas connu la défaite, marque à tous les matchs, et a notamment battu à domicile Lille et Marseille.
Et d'autant plus attention que c'est une équipe qui ne réussit pas beaucoup au Stade Brestois.
Ah, j'ai un très mauvais souvenir d'Amiens, comme tout le monde, je pense, le 3-2.
C'est sûr, mais au total, on a joué 11 matchs contre Amiens, on n'en a gagné qu'un seul en championnat, et c'était à domicile. Et chez eux, on a perdu 4 fois et fait 2 nuls.
On s'était fait la même réflexion face à Dijon.
C'est vrai.
On a gagné 2-0. Donc,
c'est un nouveau stade brestois.
Je signe tout de suite pour la même chose.
Parce que finalement, bah là, il ne jouera pas, mais il n'y avait pas Denis Bain quand on a perdu contre Amiens et Dijon avant, donc évidemment.
Il n'y avait pas Gauthier Larsonneur non plus, non, hélas. On se rappelle du match d'un certain gardien qui nous avait mis dedans, encore une fois.
Moins contre Amiens que contre
Nîmes.
Contre
la frappe de mon conduit, il doit la sortir quand même.
C'est une belle frappe, quoi.
Ah, surtout qu'en face, on a Gürtner qui fait vraiment le
match de sa vie. C'est sûr. D'ailleurs, on peut peut-être en parler un peu rapidement de Gürtner.
Ah, c'est le gardien, le gardien de Amiénois qui est quand même un taulier capitaine de cette équipe qui est cette année un petit peu plus difficile, effectivement. Mais qui est une valeur sûre, je pense. D'ailleurs, il y a un peu des parallèles à faire avec Gauthier Larsonneur au niveau de la taille. C'est pas un gardien très grand, mais
oui, c'est explosif deuxième, sur sa ligne. Ouais, deuxième. Exemple, le Telegram avait fait un dossier assez intéressant sur donc, la taille de Gauthier Larsonneur, avec notamment une bonne interview de Jérémy Jeannot.
Oui, qui était plutôt sympa d'ailleurs. Ouais.
Et il avait l'air de connaître assez bien de quoi il parlait, Jérémy Jeannot.
Jérémy Jeannot, qui me fait penser à un ancien Brestois qui se trouve à Amiens, c'est Romain Poyer, d'ailleurs, qui est toujours, qui n'est pas parti avec Pélissier, et qui sera sûrement très heureux de retrouver les anciens Brestois, et notamment son copain Bruno Brugy et Grégory Lorenzi. Ah,
que de souvenirs.
Que de souvenirs. Bah, Poyer, c'est Poyer quand même, c'est quelque chose.
Il n'y a que dans un club que c'est une légende, c'est vrai. C'est, quoi.
C'est ça.
Donc Luca Elsner, qui est un entraîneur, donc le plus jeune entraîneur de Ligue 1, 36 ans seulement. Donc, comme tu disais, c'est vraiment un choix osé et agréable de voir des nouvelles têtes en Ligue 1. Et des nouvelles têtes qui sont, pour moi, vraiment très qualifiées et performantes. Alors donc Elsner a commencé assez rapidement à entraîner.
C'est avant un choix aussi osé, mais un entraîneur qui parlait français déjà.
Oui, il parle français, c'est-à-dire que son
père a joué à Nice
et du coup il est né à Ljubljana en Slovénie.
Très grand ami de Hugo Lloris.
Oui, et donc il a passé quand même pas mal de temps en France, donc il parle très très bien français.
Il me semble que j'ai vu un papier de l'équipe qui mettait en avant, il y avait Lloris qui parlait et Luca Elsner. Et donc Lloris était très ami avec son frère en fait, il me semble, c'est pour ça qu'ils se sont connus. Et Lloris a permis à Luca Elsner de venir à Tottenham et d'échanger avec Mauricio Pochettino, qui apparemment l'a pas mal aussi inspiré et a trouvé cette rencontre très intéressante. Et ouais, du coup, toi qui le connais un petit peu comme tu suis les Pays de l'Est, tu.
Donc il a commencé donc en entraîneur de club à Domžale, donc qui est un club formateur donc en Slovénie, qui n'est pas le plus grand club, donc mais qui se qualifie.
Vous n'avez pas joué vous-même ?
Si, si, c'est ça. Ouais. Et c'était vraiment, enfin, c'était d'ailleurs Luca Hesner qui était entraîneur. Il jouerait donc régulièrement l'Europe. Il lance beaucoup de jeunes. Yann Repas, qui est maintenant à Caen, qui ne joue pas beaucoup, a été formé à Domžale. D'ailleurs, il y a son frère Ziga Repas, qui est un très très bon jeune.
Dire un mauvais jeu de mots aussi.
Bon, moi je l'ai.
Non, mais non, mais ouais.
Voilà. Et il avait une vraie réputation de joueur, d'entraîneur très offensif qui faisait vraiment bien jouer son équipe. Il y a quelques très très bons joueurs à Domžale qui facilitent aussi cette bonne pratique du football. Et donc il marquait beaucoup de buts pour aussi en prendre pas mal. Et généralement ça finissait troisième derrière l'Olympia Ljubljana et Maribor, qui sont les deux grosses équipes. Donc ensuite il a pris la tête de l'Olympia Ljubljana, où ça s'est pas très très bien passé parce que la direction est un peu compliquée à l'Olympia. Et ensuite il a été à Chypre, où voilà, il a fait une petite pige, avant de signer donc en Belgique, à l'Union Saint-Gilloise.
C'est de la D2 ?
Oui, c'est de la D2, donc il a fini à une très bonne place. Et là aussi, il avait la réputation de faire très très bien jouer son équipe. Il avait notamment gagné un 3-0 contre Anderlecht en coupe. Et il a fini 3ème de...
C'est risqué quand même de prendre un entraîneur comme ça quand t'es Amiens et que tu joues le maintien, un mec qui connaît pas la Ligue 1 ni même la première division d'un grand championnat.
Mais ils aiment ça visiblement, parce que dans les joueurs aussi, c'est un peu le même profil de joueurs qui recrutent des étrangers, pas trop, peut-être un peu...
Godos notamment.
Godos, il y a le jeune Jack Lane qui peut pas jouer, ou Lene, enfin c'est un Suédois qui a été recruté en Suède, qui a 17 ans, qui ne peut pas jouer en France, faute de, je ne sais pas quoi, d'un visa ou de contrat de travail, je ne sais pas quoi. Mais voilà, il y a les Colombiens, il y a donc un Norvégien, un Italien depuis cette année. Enfin, c'est vraiment un...
C'est l'inverse de Brest, hein, un peu au niveau du
recrutement. Un peu, ouais, c'est ça. Et c'est un effectif... cosmopolite, c'était le mot que je recherchais. Et il y a eu pas mal d'articles donc sur la méthode Luca Hesner, et c'est vraiment basé sur la communication individuelle et collective. Donc toutes les semaines, c'est entretien. Alexis Blin qui le disait dans l'équipe, ils ont un entretien individuel pour leur expliquer ce que l'entraîneur veut et comment arriver à cette finalité. Et bah, visiblement, ça a l'air de marcher plutôt pas mal, puisque... voilà, Amiens joue plutôt bien et je pense qu'ils arriveront à se maintenir sans trop de problèmes.
Voilà, on était avec Quentin, du coup, d'Amiens. merci pour ton intervention.
Mais c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la technologie et il a écrit un bouquin aussi, sur comment réussir dans le haut niveau. Et il s'intéresse à plein de choses. Il essaie de récupérer beaucoup d'idées à droite et à gauche, il lit beaucoup. Et il s'intéresse voilà, beaucoup à la technologie et comment devenir meilleur et trouver des idées pour devenir meilleur. Et ça, je pense que c'est une vraie force pour un entraîneur de jamais se reposer sur ses lauriers. Et je pense que Olivier Dalloglio est un peu dans cette optique-là.
C'est pas Alex Dupont. Tennis ballon, allez les gars.
C'est pas Alex Dupont.
Moi, ce qui me fait peur, c'est leur potentiel offensif. Qui est assez, ils jouent à deux devant, hein, c'est pas toujours très commun. Donc Mendoza et Guirassy. Donc Guirassy... ça va vite, bon, c'est un peu tout droit. Mais donc les deux.
C'est maladroit aussi devant le but.
Ouais, mais ils sont quand même à 7 buts, hein, 3 et 4, depuis le début de la saison. Je pense que c'est vraiment la paire à surveiller. D'ailleurs, moi, Guirassy, ça va être. Mendoza, ça va être mon joueur à surveiller. Mais Guirassy, lui, est suspendu en Coupe de la Ligue, donc il ne jouera pas. Mendoza va se reposer. Mendoza, c'est un joueur qui a une histoire un peu particulière. Hein, c'est avec son frère qui a été assassiné, si je ne dis pas de bêtises, pendant l'été.
Qui n'a pas fait de préparation.
Qui n'a pas fait de préparation et qui là vraiment il a marqué contre Saint-Étienne dimanche. Faudra faire attention. Donc on a Bain suspendu, ça me fait un petit peu peur du coup par rapport à ça.
Et sur le cas Guirassy, je pense que ça serait un peu réducteur de dire que c'est un mec qui court vite. C'est aussi un mec qui est très bon dos au but.
Oui.
On l'a vu contre Saint-Étienne, c'était vraiment très très dur à prendre pour des gars comme je crois que c'était Perrin qui était sur lui. C'était la grosse galère donc.
Ouais, Perrin installé.
Perrin c'est compliqué.
Le football, c'est difficile pour notre ami Loïc.
Après, on va parcourir un petit peu les différents sites, forums et des élus, les différentes déclarations. On peut voir quand même que l'entraîneur regrette et déplore que son équipe soit un petit peu naïve. Parce qu'elle perd pas mal de points, en fait, lorsqu'elle mène au score. Voilà. Donc, je pense que Brest ne devra pas s'arrêter de jouer, même si Amiens ouvre le score assez rapidement dans la rencontre. Derrière, c'est prenable, je pense. Donc, il y aura des buts, à mon avis, dans ce match, comme avec Brest depuis le début de la saison, de toute façon. Il n'y a pas eu de 0-0 encore.
Rennes,
oui, c'est vrai. Là, c'était un petit peu plus dur offensivement pour nous.
Mais tu disais que Amiens marquait à tous les matchs. En fait, ils prennent des buts à tous les matchs aussi. Il y a juste eu une victoire à Lille en début de championnat, je crois que c'était la deuxième journée.
1-0, ouais.
1-0, mais Lille était à 10.
Mais ils n'ont pas marqué que contre Toulouse en début de saison.
Oui, c'est voilà. Non, moi, ce qui me fait vraiment peur avec Amiens, bon, je ne vais pas vous mentir, j'ai vu que deux matchs d'Amiens cette saison, c'est contre Marseille et Saint-Etienne.
Ouais.
Et à chaque fois, c'était un peu le même
profil. J'ai vu Lille aussi.
C'est une équipe qui va très très vite.
Ah ouais.
En contre,
recherche la profondeur,
qui récupère très haut et qui se retrouve très souvent en supériorité numérique. Contre Marseille, c'est hallucinant. Ils ont eu 4-5 fois, ils sont à 3 voire 4 contre 2.
Mais si on joue si comme à Angers, c'est-à-dire en étant assez bas, peut-être qu'on va les emmerder parce que du coup, oui. ils pourront pas être derrière le but. Hein, au niveau de la profondeur, ça risque de les contrarier.
Okay, sur glace.
Oui.
Bah, j'ai peur que si on se retrouve mené et qu'on n'égalise pas de suite, ça fasse
une limoise.
Un peu, ouais.
Non, moi je pense pas qu'il y aura de limoise. Parce que à l'ambiance de la licorne, je pense
oui,
que.
Il y a pas une ambiance, c'est pas si mal. Hein.
Non, c'est pas si mal, mais c'est pas Nîmes.
Ah, mais c'est pas Toulouse non plus.
Non, mais je veux dire que Nîmes, il y a vraiment, pour moi,
c'est cliché, mais
c'est vraiment le contexte nîmois, où là, dès que tu prends un but rapidement, ça peut vraiment rapidement partir en bruit. Et ça l'avait
après, on n'a pas besoin d'un contexte pour s'en prendre quatre. À Monaco, il n'y avait personne.
Non, voilà, il y avait
des... Mais c'était la qualité des joueurs, en fait.
C'est magnifique. On n'est pas les derniers à prendre des cacahuètes de Slimani et Benyedder.
Non, d'ailleurs, ils n'ont pas arrêté depuis notre match. Ils continuent tous les deux à être performants.
Plus précisément, c'est toujours sur le constat entre l'OM et Saint-Etienne. C'est une équipe qui, je pense, énerverait beaucoup Quentin parce qu'il y a 2-3 joueurs qui ne défendent pas du tout. On voit le but contre Saint-Etienne. J'ai fait un arrêt sur image. Saint-Etienne a une longue possession pendant 2-3 minutes. Il y a 7 Amiens qui défendent, 8 avec Gürtner. C'est-à-dire qu'il y en a 3 qui sont restés devant, sans.
Après, tu parlais de supériorité numérique à la récupération de ballon, c'est peut-être un peu
et
comme
oui,
ça.
Oui, enfin, ça va dans les deux sens, évidemment. Évidemment.
Et c'est ça, un peu c'est... ce qu'on voyait contre Bordeaux pour nous.
Et du coup, c'est un peu un déséquilibre qui leur permet justement de marquer beaucoup de buts aussi.
C'est ça, mais qui fait qu'ils en
font beaucoup. C'est logique, ouais.
Et l'autre point qui, moi, m'a marqué, qui en plus peut être très bien pour nous.
Ils ont leur maillot est moche, mais bon.
Ça, oui, c'est moche. Mais c'est qu'en fait, ils ont des.
Leur logo aussi.
Oui.
Ils ont des beaux gabarits. Hein,
ouais, ah oui,
mais sur coup de pied arrêté, ils prennent pas mal de buts. Ils ont pris 4 corners depuis le début de saison.
Alors que nous, sur corner, mais c'est corner but. Hein, c'est...
Mais avec les beaux coups de pied arrêtés de Johan Cour cette saison.
6 passes
D. Ce qui n'était pas le cas l'an dernier, on va quand même dire. Ouais, ça peut être une bonne arme. Hein.
Alors vous, comment est-ce que vous feriez jouer l'équipe du coup? Il y a le match en semaine. Est-ce que vous partez? Est-ce que vous alignez à la licorne le même 11 que face à Dijon, ou il y a des choses que vous changez?
Moi, je dirais que déjà, ça va être compliqué pour nous de savoir, mais le match de Metz va peut-être influencer.
Mmh.
Alors, je ne sais pas à quel point, mais si un joueur marque un doublé ou je ne sais quoi, ça peut toujours influencer la décision d'Olivier Laouillo. Mais
et dans le système de jeu,
je ne vois pas vraiment pourquoi changer. Ça marche bien. Donc,
Moi, je serais parti comme en deuxième mi-temps à Angers. Ou comme face à Dijon, avec la même équipe. Et... Ouais, quitte à garder Batocchio, hein, même. Ou mettre Diallo, je vois.
Je pense qu'on sera plus. Surtout face à une équipe qui se projette très rapidement, on sera plus en sécurité avec un 4-3-3 plutôt qu'un 4-2-3-1. Parce que l'avantage du 4-3-3, c'est que les deux milieux, les deux 8, peuvent compenser un ailier. On a vu pas mal avec Paul Lann. Qui se déplaçait régulièrement sur un côté pour défendre avec son défenseur latéral. Et ça compensait la montée de Cour qui était parfois un peu en retard, ou de Samuel Grancière aussi de l'autre bord. Ça peut être intéressant pour contrer leurs alliés qui sont parmi les plus dangereux, leur élément le plus dangereux
de leur côté d'Amiens.
Tu mettrais peut-être Cardona, bon, c'est le cas tous les deux, j'ai l'impression.
Moi aussi, j'ai envie de le voir, j'ai envie de lui laisser sa chance.
En plus, il n'a pas joué du tout contre
Dijon. Est-ce que Cardona il peut jouer à la place de Grancière, par exemple? Ou est-ce que c'est...
C'est ce qu'il a fait contre Angers.
C'est ce qu'il a fait, oui, c'est sûr.
Mais après, il a c'est la discipline tactique. C'est ça, voilà. Côté de Cardona. Contre Metz, il était rentré, il avait pris un jaune très rapidement, sur un tacle un peu non maîtrisé. Et du coup, est-ce qu'il pourrait jouer 90... Bon, peut-être pas 90 minutes, mais démarrer titulaire et être suffisamment concentré tout au long du match pour éviter un oubli ou quelconque erreur défensive? Évidemment, ça serait une.
Après, moi, il y a un truc qui me fait un petit peu peur. On l'avait vu la dernière fois qu'on était en Ligue 1, c'est que le match qui suit, c'est PSG. Et j'ai peur que certains aient déjà ça en tête, en fait, en se disant Ah, on est bien au classement, on a pris des points, machin. J'ai pas envie de me faire suspendre, de me faire expulser ou de me blesser.
Pas Ahmed Kantaric.
Voilà. De me faire, de, voilà. Donc c'est un petit peu la question que je me pose. Est-ce que les joueurs vont être tous à fond parce que pour moi, notre PSG et Amiens, le match plus important, c'est 100% Amiens, enfin c'est 2000% même. J'ai un petit peu peur que certains ne se donnent pas à fond sur cette rencontre. Après, peut-être que je me trompe complètement et qu'ils n'en ont rien à faire. Genre, je pense à un Belkebla, je sais qu'il a vraiment, vraiment envie de jouer contre Paris. Originaire de là-bas, je pense qu'il y a des mecs comme Charbonnier qui est formé au PSG et qui n'a pas non plus envie de rater ce match-là, donc c'est mon interrogation à surveiller, quoi.
Ouais, je pense pas,
honnêtement. Si, ouais, j'y crois pas, mais c'est possible.
Ouais, voilà, je sais pas si ça va être le cas, hein, je pose la question. On sait que voilà, quand Harry qui a été formé au PSG a fait exprès, il avait calculé son coup. Peut-être que Denis Bain a tout calculé, mais non, j'y crois pas une seconde. Après, il y a des joueurs, je pense, qui s'en foutent. Hein,
Les joueurs à suivre, peut-être que côté Amino d'abord.
Moi, j'ai dit Mendoza. Je ne peux pas m'épancher plus, mais Mendoza devant, attention.
Guirassy, pour moi, même si c'est un mec très bourrin, bah, c'est lui qui se procure le plus d'occasions chez eux, qui est très chiant à marquer. Guirassy.
Moi, j'aurais dit Godos si Godos avait joué, puisque je suis un grand fan de ce joueur, mais je vais plutôt partir vers Gürtner.
Un joueur à suivre côté Brestois.
Pour moi, ça va être Berkebla, parce que j'ai regardé le milieu d'Amiens. Ça a l'air d'être deux gros travailleurs. C'est Blin et Gnoré, ou je crois que ça se prononce comme ça.
Et Dignoiré.
Oui, peut-être. Enfin, c'est vraiment deux gros travailleurs, pas forcément des foudres, mais ça va être une vraie baston au milieu. Et pour ça, bah, on a...
Il va y avoir du kilomètre parcouru. Là.
C'est ça. Mmh. C'est là où on a Berkebla, on aura besoin de lui.
Quentin ?
Batocchio, moi. S'il joue, hein, évidemment. J'espère qu'il jouera. Pour continuer et... Vraiment poursuivre sur sa dynamique, lui aussi, j'espère, parce qu'on est tous fans de Batocchio, moi le premier. Et je suis vraiment très content de le revoir titulaire, de le revoir à un niveau qu'il n'avait peut-être jamais eu depuis sa blessure. Donc Batocchio, j'espère qu'il arrivera à continuer sur ses très belles performances, ses deux très belles dernières performances.
Et moi, ce sera du coup Castelletto, alors tant pour voir lui sa performance individuelle et voir comment est-ce qu'il va s'adapter et encadrer le joueur qui jouera avec lui dans l'axe. Continuer sa progression et voilà, je vais suivre. J'attends qu'il soit le patron vraiment de la défense brestoise. Du coup, voilà, on a été complet sur Amiens, sur nos attentes. Maintenant, place aux traditionnels jeux qui ont été préparés cette semaine par Quentin. Alors, peut-être point sur le score.
Non, pas besoin.
Si. Alors que je reprenne mon cahier qui se remplit à vue d'œil. Effectivement, on arrive déjà au 13e podcast. Alors, ben, les feuilles se remplissent. Hein. Parce que je suis encore avec un cahier à l'ancienne. J'ai donc 16 points. Quentin, tu es passé à 10 points. Et Yann, 7. Donc Yann, il va falloir que tu te bouges le cul, sinon tu vas faire comme aux traites et tu vas être sur le banc.
C'est dans la tête, le classement.
Alors, donc les jeux, donc 3 questions. Plus ou moins simples. Première question, j'espère que vous m'avez bien écouté quand j'ai parlé de Luca Elsner. Quel était le dernier club de Luca Elsner ?
Saint-Gilloise.
Un point chacun, allez.
Car oui, nous sommes attentifs aux propos du grand groupe.
J'aurais pas dû le dire pendant la tirade. Ça montre que vous m'écoutez, donc c'est rassurant, c'est bien.
C'est comme moi en classe, j'aime bien quand ça répond tac au tac. C'est pas toujours le cas.
Alors, deuxième question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Luca Elsner est le plus jeune entraîneur de Ligue 1. Mais qui est le deuxième plus jeune entraîneur de Ligue 1 ?
Thomas Tuchel ?
Non.
Patrick Vieira ?
Non.
Olivier Davoglio ?
Non, il a plus de 50 ans.
Ça me semblait.
Mais même s'il ne les fait pas. Je crois.
Ouais, c'est vrai qu'il physiquement, il est assez en forme, le garçon. Hein.
Julien Stéphan ?
Oui, bonne réponse.
Ah, mais alors, on a vu ce podcast, il est peut-être viré. Hein.
Ah bon ?
Non, pas après sa victoire.
Non, je rigole. Point pour Yann.
Donc.
Qui dit, donc, hein, je ne vais pas trahir les coulisses, et qui dit que le classement, on s'en fout, c'est dans la tête, mais qui me montre le cahier en me disant, hey, mec, écris mon point, s'il te plaît. Voilà. Donc, 9.
Et troisième question. Donc le 3-2 légendaire du choke le plus légendaire de l'histoire des légendes du Stade Brestois.
Pour rappel, c'est le 3-2 qu'on perd, le match qu'on perd 3-2
oui,
à Francis Leblay il y a quelques années.
Donc défaite. Il y avait eu deux buts contre son camp, un côté Brestois, un côté Amiénois. Et donc qui était l'autre buteur Brestois ?
Alex Coueff.
Eh oui, ça c'est un point chacun.
Putain, j'aurais fait au
plus. Ah,
et j'ai donc 10 points et l'honneur est sauf.
Et moi je possède 18, donc je marque 2 points. Victoire Yann.
T'as plus de points que Dijon.
Eh oui.
Victoire Yann. D'ailleurs, t'as oublié de dire dans ce podcast qu'on était encore devant Marseille.
Et oui, bah oui, Marseille qui a pris une belle branlée.
Et devant Lyon, et devant tout ce que vous voulez.
Il y a 14 équipes derrière nous, donc tant qu'il y en a plus derrière nous que devant,
c'est positif.
C'est très bien.
Mais par contre, il faut garder pied sur terre. C'est important de...
Oui, bah, la Ligue Europa.
L'important au bout, c'est d'en avoir 3 derrière nous.
C'est ça, exactement. Ouais. On va conclure ce podcast, ce 13e podcast par les paris. Et donc, je vais commencer parce que je l'ai devant moi et sinon, je vais oublier.
On était où, niveau paris?
Alors, ça, moi, je dois être à 0 voilà. euros. Je pense que je dois rembourser la terre entière.
Mais la semaine dernière, on m'avait dit quoi?
Alors, la semaine dernière, tu avais dit plus de buts, donc tu es passé, tu as gagné. 2 buts ou plus.
Ah ouais.
J'avais dit victoire, mi-temps ou fin de match, donc j'ai perdu.
Et moi, j'ai dit Brest.
Et toi, tu avais dit Brest sec.
Non, Brest avec 2 buts d'écart.
Ah, vous aviez peut-être dit la même chose alors.
Il me semble, hein, parce que c'est ce que tu voulais dire aussi.
Moi, j'ai aucune idée de ce que j'avais.
Il me semble que c'était ça, donc j'étais le seul à avoir perdu.
Et donc mon pari cette semaine, ça va être une petite cote, une cote à 1,80, c'est les deux équipes marquent, parce que de toute façon on a tenu ce discours pendant 25 minutes sur Amiens. Les deux équipes vont marquer, côté à 1,80, donc pour 100 euros joués, vous pouvez gagner 180.
Perdre 100 euros.
En tout cas moi je jouerais 0 euros sur ça, mais moi, si j'avais de l'argent à jouer, j'aurais joué ça.
Moi c'est un peu en résonance avec ce que le pari se fange, c'est Brest tout nul et les deux équipes marquent, c'est à 3,05. En gros c'est les deux équipes marquent et Amiens ne gagne pas.
D'accord. Et Quentin?
Moi, je vais jouer Brest qui gagne 2 buts à 1.
Ouh.
Donc, côté à 13.
Ouh.
Généralement, ces derniers temps, on marque 2 buts contre Metz et Dijon. Et Amiens, on met 1. 2 buts à 1, ça me semble cohérent comme score final.
Et un petit pronostic peut-être pour Brest-Metz, histoire qu'on rigole quand on sortira le podcast. Alors, moi, je vois une victoire brestoise aussi improbable que ça puisse paraître en Coupe de la Ligue. J'avais une petite victoire brestoise sur le score de 1-0 et je dis but de Mendy. Eh ben ouais.
Oh bah moi,
allez, mouillez-vous.
Moi je vais être sur du classique, hein, victoire brestoise au pénalty.
En plus, c'est Léon qui joue, il est bon au pénalty.
Buteur. Irving Cardona, 4-20.
Demain?
Oui.
Enfin, hier?
Oui.
Hier. D'accord. Eh bien, messieurs, merci.
Merci à toi.
Pour l'accueil, effectivement.
Oui.
Prochain podcast sera un petit peu spécial et en tout cas sera certainement attendu par de nombreuses personnes parce que ce sera le podcast.
Oui. Est-ce que la billetterie, est-ce que le podcast sera
pas PSG
autant de succès que la billetterie?
Je sais pas, ça, j'en douterai d'avoir un invité parisien la semaine prochaine.
Oui, un invité de luxe.
Ce sera pas trop dur, un invité de luxe selon Quentin.
Oui.
Donc attendez-vous à voir Kylian Mbappé nous répondre. Et voilà, bonne semaine à tous, bon match à Amiens, bon match en de la Ligue, j'espère que c'est bien passé, et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, salut.
Salut,
bien. La croisière, et dans la planche baleinière, chamboué notre brigadier, son bol est caplé, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps. Celui de mes 20 ans.